France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Comme une ambiance de fin du monde ce samedi dans Plan Large avec Nadav Lapid et Oliver Laché et aussi Kim Novak et encore Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Jamais, sans doute depuis longtemps, avec les deux films qui nous occupent cette semaine, a-t-on eu le sentiment de voir et de vivre avec autant de force que de pertinence le marasme et la déliquescence du monde contemporain. Au dernier festival de Cannes, l'un était en compétition, il en est reparti avec un prix du jury et un prix pour sa bande-son également. L'autre aurait, de l'avis de tous, dû en être de cette compétition, si une frilosité artistique qu'on soupçonne d'être aussi politique de la part du comité de sélection ne l'avait empêché. Leurs projections ont créé l'événement, suscitant l'enthousiasme des uns, le rejet profond des autres, une minorité. Certains voudraient opposer l'un à l'autre pour des raisons éthiques autant qu'artistiques. Nous avons choisi de les rassembler dans la même émission parce que leurs films ont des choses à se dire, ne serait-ce que par leur aspect de dernière fête avant la fin du monde. Le premier, nous l'avions déjà rencontré à Cannes, c'est le cinéaste israélien désormais installé en France, Nadav Lapid. Farouche opposant qu'il est de longue date aux dérives nationalistes de son pays et à Benjamin Netanyahou en particulier. Rappelez-vous les vitupérations véhémentes du héros de son film précédent, Le Genou d'Aed. Il s'est passé deux ou trois choses depuis notre discussion cannoise qui nous ont donné envie de prolonger la discussion avec lui. Ce sera dans un instant. Le second est né en France, de parents républicains espagnols réfugiés. Il est revenu vivre dans sa Galice originaire après avoir passé de longues années au Maroc. Sirat, spécimen oxymorique de film radical et grand public à la fois, mais depuis mercredi, ses spectateurs en transe. Nous verrons tout à l'heure avec Oliver Laché comment il y est parvenu. Nous entendrons aussi à sa suite la dernière star du Hollywood classique, Kim Novak, qui a fait escale à Deauville après l'hommage qu'elle a reçu à la Mostra de Venise. Elle nous racontera le tournage du mythique Vertigo d'Alfred Hitchcock et comment elle s'est pleinement identifiée à la double figure de Judy et de Madeleine. En fin d'émission, Mathieu Macheret exhumera des limbes cinéphiliques la figure comique et spectrale du génial cinéaste portugais João César Monteiro. Mais pour l'heure, que la fête commence.
Let's make history in the century.
Bonjour Nadav Lapid.
Bonjour.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est un couple d'artistes israéliens. Lui, il est musicien, elle est danseuse. On est dans une fête à l'occasion de la fête de l'indépendance d'Israël, dans une somptueuse villa qui rassemble l'élite techno-politico-militaro-financière du pays. La seconde désigne au premier les puissants qui les entourent avant de se jeter à corps éperdu dans la danse, la caméra avec eux. C'est le début de Oui. Le musicien s'appelle Yud en hébreu. C'était déjà déjà, si je me souviens bien, le nom du protagoniste du Genou d'Aël, votre précédent film. Là où Youd n'était que colère et vitupération, il n'est dans Oui que soumission et prostitution de son art comme de sa personne. Pourquoi ce renversement de ce personnage, Nadav Lapine ?
Et je pense qu'on est, c'est évident qu'on est en plein chaos mondial, dans une réalité qui nous choque et chaque jour par sa folie, parfois par son obscénité, par son côté extrême qui va très loin, et on a l'impression qu'on est d'une certaine manière qu'au début ou en pleine dégradation. Et je pense que c'est d'abord cette réalité convoque des réponses radicales. Soit non, soit oui. Il y a plus de la place pour de toutes sortes de réflexions modérées qui cherchent les bons schémas d'humilier. Et puis, moi j'ai l'impression que le non, qui était la grande réponse du cinéma pendant plus ou moins, je pense, depuis sa naissance, qui est le grand signe, par exemple, des héros du cinéma américain, dans John Wayne qui tourne son dos au village. Je pense que le nom a échoué. Regardons le résultat. Ça sera presque un peu narcissique, mais de mon petit point de vue, moi, j'ai réalisé 4 films des noms. Et les noms, j'avais l'impression que les noms s'affirmaient de plus en plus avec chaque film. Qu'est-ce que ça changeait? Qu'est-ce que ça donnait? Quel effet ça avait? Regardons ces gouffres et ce sommet de l'abysse dans lequel se trouve Israël aujourd'hui. À quoi ça servait? À quoi ça servait le cinéma américain du nom quand on voit Donald Trump? Donc je pense que le moment est venu vraiment pas juste comme une sorte d'exercice hypothétique, d'examiner le oui. Et c'est ça ce qui fait le film et le personnage principal.
Oui, il en fait même une éthique, une philosophie de vie. Il l'explique à son bébé à un moment. Ils sont face à la mère. « Résigne-toi, mon bébé », il lui dit. La soumission, c'est le bonheur.
Quand vous avez un enfant... J'ai un fils qui aura bientôt 7 ans, le 8 octobre. Quand vous avez un enfant, je pense que cette question de la transmission... De quel monde vous décrivez, à quel monde vous préparez votre enfant, devient de plus en plus présente. Est-ce que vous les préparez pour un monde rêvé, un monde idéal peut-être, ou un monde qui réfléchit vos espoirs, vos attentes, mais qui n'existe pas, un monde ce monde imaginaire. Et d'une certaine manière, la réflexion, je pense, de notre défaite, de notre échec, du fait qu'on a été battu. Ou vous les préparez pour le seul monde qui existe, qui est ce monde-là, avec ses défauts peut-être, mais vous les préparez à la vie. Est-ce que vous voulez qu'ils deviennent deuxième génération des Don Quichotte, qui mènent des batailles perdues d'emblée, des échecs qui accumulent les échecs, qui sont exclus, vous voulez qu'il vive vraiment, qu'il profite de la vie, qu'il s'émerveille de la beauté. Et donc, d'une certaine manière, il faut se débarrasser, selon le personnage, il faut se débarrasser de ces illusions de la résistance qui sert à rien, qui devient de plus en plus pathétique et insignifiante, le plus vite possible.
Depuis que nous nous sommes rencontrés au Festival de Cannes, le film a été montré une fois, je crois, en Israël. C'était au Festival du film de Jérusalem, à la Cinémathèque, malgré l'opposition véhémente du gouvernement qui ne voulait vraiment pas que votre film soit projeté. Il s'en est suivi un débat qui était animé par Harry Folman, le réalisateur de Valse avec Bachir, et y ont été posées effectivement des questions qui recoupent ce que vous dites. Comment est-ce qu'on peut être cinéaste en Israël aujourd'hui? Mais aussi, qu'est-ce que le cinéma israélien a raconté d'Israël ces 20 dernières années, qui fait que on aurait pu peut-être comprendre pourquoi il se passe la guerre à Gaza en ce moment. Et le cinéma israélien, je crois que c'est ce que vous aviez dit, a échoué à montrer ça.
Oui, je pense que, enfin, je les pense toujours. Je pense qu'on n'a pas réussi d'aller au bout du gouffre et on n'a pas réussi de parler de cette âme collective extrêmement malade. Et d'ailleurs, cette maladie, comme la plupart des maladies qui ne sont pas soignées, s'aggrave de plus en plus. C'est pas étonnant, mais c'est tragique. On n'a pas réussi, je pense, de parler de cette maladie. On a essayé de susciter, d'évoquer par-ci, par-là, un tel problème, un autre problème. Mais le problème, c'est le pays. C'est le pays où le problème se trouve. Malheureusement, aujourd'hui, je pense chez les Israéliens, c'est pas. Je lis de temps en temps des analyses politiques, on parle de Netanyahou, on parle d'un autre ministre, on parle du gouvernement. Je pense que tous ceux-là, finalement, sont des bagatelles à l'égard d'une sorte de phénomène, d'une sorte de tempête qui est cette âme collective qui n'arrive plus à trouver une remédie.
גברת רוטשילד, נמאס מתל אביב, צפוף בהילטון, נסעת עד לפריז, חזרת הביתה עם ריח של שנל, לבן יהודה לא להתבלבל. גברת היפסטר, נו איך בברלין? את משתלבת יפה עם גרמנים, את לא רוצה יותר לשמוע שמאל ימין, אז גוטנאכט או וידרזיין. פה זה לא אירופה, פה זה ישראל, תתחיל להתרגל. כפה הופה, פה זה לא אירופה, פה זה בלגן, מזרח תיכון ישן.
C'est de la dance très entraînante, c'est une chanson qu'on entend dans votre film, je pense qu'elle est captée sur le vif, hein, façon reportage, et cette chanson elle dit « Hop, ici c'est pas l'Europe, ici c'est Israël, comment ça t'y faire ? Ici c'est le bordel du vieux Proche-Orient ». Et ce bordel, c'est aussi ce que vous mettez en scène, Nadav Lapid, et la caméra qui n'est pas avare d'embarder, il participe pleinement.
Oui, vous savez, cette chanson, d'ailleurs, se moque de gens comme moi, de tous ces Israéliens qui pensent qu'ils vont s'installer à Paris, à Berlin, qu'ils vont dire du mal du pays et vont être intégrés ou être aimés par les Européens, mais qui ne comprennent pas leur antisémitisme, leur aversion profonde du pays, etc., etc. Et il exprime tout ce mélange étrange qui existe en Israël, ces sentiments à la fois d'infériorité, mais aussi de supériorité par rapport aux Européens, comment en Israël on vous voit comme des bébés gâtés et naïfs qui ne comprennent pas la réalité cruelle du monde, de la manière que nous on le comprend. Et par rapport à la caméra, je pense que la caméra, dans ce film, a une sorte de double rôle. D'un côté, et transmettre les chaos absolus, le fait que les choses, qu'on perd les contrôles, que rien est plus sous notre contrôle, qu'on est tout le temps face à la possibilité du pire et au bord de l'enfer, etc. Mais en même temps, je pense que la caméra et le film, bizarrement pour moi, est aussi une ode à la beauté du monde. Et donc, comment peut-on à la fois chanter une ode à la beauté du monde et parler de l'enfer politique sans que l'un récompense l'autre? Je pense que ça, c'est le genre de choses qui sont possibles qu'à travers l'art et le cinéma.
Mais il y a aussi un côté, d'ailleurs, très musical dans votre film. On est souvent proche de la comédie musicale, ne serait-ce que parce que les personnages, comme dans les comédies musicales classiques, sont du métier, un musicien, une danseuse. Et la musique, d'ailleurs, vous donnez des instructions aux projectionnistes de maintenir un certain niveau musical qui est important pour votre film. Est-ce que, comme dans la comédie musicale, il y a des moments où la musique, la danse, le mouvement des corps disent des choses que les paroles ne peuvent pas exprimer, Nadav Lapid?
tout à fait. Enfin, moi, je pense, originellement, je viens du monde et l'univers des mots. Je viens de là, je commençais comme écrivain, je viens de la littérature. Je pense que dans tous mes films précédents, les mots avaient un rôle principal, bon, synonyme, c'est un film qui porte sur et il y avait en plus ce moment où le personnage principal voulait enfin tout dire, utiliser tous les mots dans le monde pour enfin dire aux citoyens de la terre entière cette vérité qu'on cherche notre vie et qu'on ne trouve jamais. Je pense que, dans ce sens-là, oui, c'est mon premier film qui appartient déjà à cette nouvelle ère, l'ère post-mot, post-langage. En fait, il y a des dialogues, il y a des mots, il y a peut-être une scène autour des atrocités du 7 octobre qui est... Mais finalement, les mots n'y arrivent plus à décrire le monde. Les mots étaient vidés complètement de leur sens. C'est un film très oral. Les gens, ils utilisent beaucoup leur bouche, pas forcément pour parler. Lécher.
Oui, vous les filmez beaucoup, manger, vous les filmez manger. Beaucoup ces bouches.
Oui, oui. Et dans un monde où les mots sont devenus des syllabes, il y a la musique et le geste du corps.
Et puis, il y a aussi le langage du cinéma qui permet de dire des choses que la société israélienne ne veut pas affronter, dans cette bulle de Tel Aviv, notamment, comme Ethan Fox avait parlé de The Bubble il y a plus de 20 ans. C'est comment raccorder, effectivement, ce qui se passe à l'intérieur du pays et puis ce qui se passe à quelques kilomètres de l'autre côté de la frontière. Et vous le faites par un... raccord qui se fait en un seul plan. C'est-à-dire qu'on n'est pas... voilà ce qui se passe à Gaza, voilà ce qui se passe à Tel Aviv. Vous montrez votre personnage sur une colline, regardant Gaza, et au fond, effectivement, il y a les bombardements. J'imagine qu'on ne filme pas une telle scène sans trembler, Nadav Lapin.
Oui, on a tourné cette scène sur une colline qui se situe à peu près 600 mètres de Gaza. Les soldats nomment cette colline la colline de l'amour, puisque je pense qu'ils ont toujours peut-être l'habitude d'amener là-bas leurs copines pour s'embrasser ou voir plus. Face à ce spectacle affreux de feux d'artifice et à Gaza, et la fumée qui monte, et les bruits des explosions et qui ne s'arrêtent pas pour une seconde, et la question que vous vous posez dans ce moment... combien de gens sont morts entre le début de la scène, enfin le début du tournage de la scène et la fin. Et oui, il y a là-bas, je pense, un plan qui d'une certaine manière signifie la démarche, une démarche qui existe dans le film. C'est une démarche qui lie Tel Aviv et Gaza. C'est une démarche qui dit on ne peut pas comprendre l'une sans l'autre. C'est une démarche qui dit ces deux villes d'une manière... assez affreuses, sont devenues bizarrement deux villes complémentaires. Elles sont l'une est la conséquence de l'autre. Et qu'on ne peut pas comprendre l'amour de Tel Aviv sans l'amour de Gaza. Et finalement, l'amour de Tel Aviv, et c'est bien d'une certaine manière, sera contaminé par l'amour à Gaza. Je pense d'ailleurs aussi que le film est adressé aussi évidemment aux spectateurs israéliens pour essayer d'aller au début, d'aller au-delà des propos et politiques trop simples. Mais je pense que c'est adressé aussi, par exemple, au public français, dans le sens que je pense que le film tente de subverser et de contrer une sorte de discours trop binaire. Autour de plein de questions, mais par exemple autour du 7 octobre et de la guerre à Gaza. Moi j'étais à Paris lors du 7 octobre et donc je voyais d'une certaine manière les événements de dimension parallèle en tant qu'Israélien, mais aussi en tant qu'habitant de Paris qui écoutait. Et je trouvais qu'il y avait très 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 peu de propos médiatiques et des hommes politiques, y compris des hommes politiques que j'apprécie, qui étaient à la hauteur du moment et qui ont réussi à surmonter et ces côtés binaires et aller au-delà des formules trop cuites et trop usées. Et je pense que dans ce film, il y a une tentative de se rebeller contre le film essaye de dire 30 000 choses à la fois. et pousser chaque chose qu'elle dit jusqu'à l'extrême. Et en ayant l'impression que si on ne dit pas tout, on ne comprend rien.
Pour revenir à la musique, Nadav Lapid, il y a aussi cette surprenante guerre de chansons au début du film, entre l'état-major de l'armée et la jeunesse festive. C'est sur le « Love Me Tender » d'Elvis Presley. C'est une manière de dire, avant on disait « Faites l'amour, pas la guerre », et maintenant c'est « Faites de l'amour, une guerre ». Nadav Lapid.
Je vais adapter ce slogan. Et, je me suis dit que si Elvis était un peu le chef d'état-major des chanteurs, si Elvis était un Israélien, je pense qu'il serait devenu un chef d'état-major. Et oui, enfin, j'ai adoré cette idée de transformer cette chanson, une des plus grandes chansons d'amour, une plus grande chanson de la tendresse, à un hymne de guerre. Et aussi de juxtaposer deux chansons, l'une contre l'autre, une bataille de chansons, puisque je pense que dans ce film, il y a ce sentiment qui existe d'ailleurs dans le monde d'une sorte de bruit éternel. Il n'y a pas. On dit que le bruit est devenu presque une sorte d'élément politique majeur. Comme si on avait 5 secondes de silence pour tenter de réfléchir d'une manière lucide, peut-être le monde aurait été différent. And I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me.
Oui, il était temps que l'amour reprenne sa place. Oui, sortira en salle mercredi prochain. Merci beaucoup, Nadav Lapid, d'être venu nous voir. En attendant la sortie de votre film, pour en savoir un peu plus sur votre cinéma, on se procure avec profit le livre collectif qui vous est consacré sous la direction de Morgane Pocquet. C'est aux excellentes éditions de L'Œil. Ça s'appelle « Description d'un combat ». Ça sort lundi et vous le signerez d'ailleurs à l'issue des débats qui succéderont aux nombreuses projections que vous accompagnez toute la semaine prochaine. Tout le détail de ces projections, c'est sur la page Plan Large de franceculture.fr, et puis on vous retrouvera mardi prochain au micro de Marie Laborie dans les Midis de Culture. Vous écoutez précisément France Culture, et dans Plan Large, on vous emmène à présent dans le désert marocain, sur les traces d'un père, c'est Sergi Lopez, et de son fils qui recherchent leurs filles et sœurs respectives dans la communauté néo-punk des Rave Party. S'ensuit un road movie et un grand trip psychédélique sauce électro-trance dans un désert métaphysique qu'on n'avait jamais vu aussi bien filmé depuis le Jerry de Gus Van Sant et surtout le Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni, explosion comprise. Oliver Lachey, c'est l'auteur de Viendra le feu qui plongeait ses spectateurs dans une forêt galicienne en flammes. Il est retourné au Maroc où il a longtemps vécu et qu'il avait déjà filmé dans Vous êtes tous des capitaines et Mimosa. En résulte un film qui frôle l'abstraction, n'était ses péripéties en forme de memento mori et qui a remporté un immense succès en Espagne. Plus de 300 000 spectateurs dans un pays qui boude volontiers le cinéma d'auteur. Sirat a d'ailleurs aussi très bien démarré en France depuis sa sortie mercredi. Il faut dire qu'on n'en sort pas indemne de ce film et que pourtant on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Nous avons rencontré Oliver Lachey lors de son passage à Paris.
Hello.
Hello.
Hello. know this girl?
Nos puedes hablar español si quieres.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Nos han dicho que quizá podríamos encontrarla aquí, en esta fiesta.
¿La habéis visto? Se llama Mar.
No me suena, lo siento.
¿No?
¿Tú la conoces?
Yo no la conozco de nada.
A ver, hay otra fiesta en el desierto.
¿Otra fiesta?
Justo después de esta, hay otra. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
¿Vais a ir a esa fiesta?
Pues puede ser, no sé, no sabemos. A lo mejor.
Bonjour, Oliver Lachey.
Bonjour.
Pour ceux qui suivent un peu votre cinéma depuis un certain temps, il y a 10 ans, des véhicules qui roulent dans le désert, on en avait déjà vu chez vous, c'était dans Mimosa. Est-ce qu'il y a des images comme ça qui vous hantent, qui vous habitent tellement qu'elles doivent ressurgir dans un autre film ?
C'était un peu le cas. Moi, j'ai commencé à vouloir habiter dans le désert en 2010. Moi, j'habitais à Tanger depuis 5 ans. J'avais fait « Vous êtes tous les capitaines ». Qui avait été à la quinzaine des réalisateurs. Et c'est des images et c'est aussi un mouvement vital. Non, j'avais vraiment envie de continuer ma relation avec le Maroc, mais plus au sud. Et bon, les images, des fois, c'est un peu la maçon, un peu pour aussi qu'on donne des pas dans notre vie. Et donc voilà, j'ai développé un peu un traitement, que c'était un peu comme ce cartoon américain, en espagnol, on appelle los autos locos, les voitures folles. C'est ces dessins animés avec beaucoup d'animaux qui sont dans des bagnoles, qui roulent dans le désert, une course, je ne sais pas comment on appelle en français. Et du coup, j'avais trouvé vraiment des personnages au Maroc incroyables. Bon, voilà, le désert m'appelait et effectivement, voilà, c'était des voitures, des camions qui traversaient, qui levaient beaucoup de poussière dans le désert. C'était un peu l'embryon de Sirat. Après, en 2016, il y a Fury Road, Mad Max qui sort. C'était un imaginaire qui était déjà dans les premiers Mad Max, mais là, c'était un peu beaucoup plus poussé, non ? Les camions qui traversent le désert. Et en fait, je me suis senti tranquille. Je me suis dit, voilà, cet imaginaire, il est connecté à une espèce d'inconscient collectif. Enfin, je suis dans l'air du temps. Donc finalement, c'est vrai qu'à Mimosa, j'en ai déjà mis pas mal. C'était taxi. Il y a quelque chose, non ? Ces voitures, ces véhicules, que ce n'est plus des véhicules. On sent aussi que c'est un peu comme des vaisseaux spatiaux, non ? Je crois qu'ils évoquent un peu le voyage intérieur, un peu. Une course qui est dans le monde physique, mais aussi, pourquoi pas, dans le métaphysique.
C'est précisément un voyage intérieur qu'on a le sentiment de vivre, de voir et de vivre en voyant votre film. Oliver Lachey, je crois qu'il devait s'appeler d'un titre différent de celui actuel, qui aurait pu provoquer quelques ambiguïtés chez le spectateur. Il était question d'une sorte de lutte intérieure, ce qu'en islam on appelle le djihad.
Oui, effectivement, c'était le premier nom du projet. Djihad Nafsi, c'est le djihad de l'ego. C'est la guerre avec soi, le contrôle de soi, la lutte. Et je trouve que c'est un super nom, djihad. Bien évidemment, on allait expliquer un peu ce terme, un peu pour transcendre cette médiatisation un peu télévisive que le concept a. Mes producteurs ils m'ont conseillé de chercher un autre nom. Là, je suis en train de, pourquoi pas, penser à faire la BD du film, mais l'appeler Jihad. En fait, faire une des premières versions du scénario, qui étaient des versions beaucoup plus délirantes, folles, ésotériques, cinématographiques. On verra.
De l'ésotérisme et surtout de la mystique, il y en a dans votre film. Sirat, c'est donc ce pont très étroit qui surplombe les enfers pour aller au paradis. Est-ce qu'on pourrait y voir là une définition du cinéma ?
En tout cas, du cinéma que je fais, que c'est un peu chercher les limites, c'est toujours un cinéma dont on est dans un fil très étroit. Enfin, pourquoi ? Pourquoi je me mets dans ces problèmes ? Pourquoi, quand je suis au milieu d'un tournage, d'un coup, je me dis « Putain, mais c'est impossible, quoi. Tu peux pas faire un film normal en ville ou dans un studio. » En fait, d'abord, je suis un junkie des images. Il y a des images qu'on recherche et bon, t'es pris, quoi. T'es possédé. Moi et mon équipe, on est un peu tous... Santiago Fillol, Mauro Herce, voilà. On est un peu des pirates qui cherchons des images. Et aussi, en même temps, bon, la nature, elle est importante dans mon cinéma. C'est pas qu'un joli cadre. C'est, on tourne pas à la nature parce qu'elle est mignonne, parce qu'elle est belle. On tourne à la nature parce qu'elle manifeste. Elle manifeste, elle pense, elle décide, elle te soumet. Peut-être c'est pour ça que je vais dans des parages des fois assez extrêmes qui compliquent un peu la chose. Je crois que je cherche des problèmes. Je crois qu'inconsciemment, je cherche que le film me transcende, ou c'est le film qui décide, non, me lever dans ces lieux. Mais je trouve que les réalisateurs, on est un peu les pires ennemis de nos films. Et il faut savoir s'arrêter à temps ou que le film soit d'une complexité suffisante pour qu'il revienne vers toi comme un tsunami, quoi. En fait, que t'as pas trop le choix à décider, quoi, sur les événements qui arrivent. Je me rappelle Mimosa, c'était quand même une épopée qui était très très dure à tourner, non? On a eu beaucoup de problèmes. Et bon, bien évidemment, quand tu les souffres, les problèmes, tu te frustres. Mais comme Syrah t'évoque, la vie ne te donne pas ce que tu cherches, la vie te donne ce que tu en as besoin. Et dans le cinéma, c'est très très clair. voilà. Quand tu es à la table de montage, tu vois les images que tu as tournées et tu te dis, voilà, c'était parfait, quoi. Parfait, même ce jour-ci où le climat n'était pas celui que tu voulais, l'acteur ne savait pas le texte. Heureusement qu'il n'avait pas pris le texte parce qu'il a improvisé quelque chose d'autre, bref. Et voilà. Le désert, quoi. Là, cette fois-ci, on a pu tourner un peu plus au sud, et c'était Syrah.
On sait que le désert est propice à l'expérience mystique. Depuis la Bible, les traversées du désert et toutes les visions que peuvent y avoir les ermites, est-ce que ça met dans un état particulier de faire un film dans le désert?
Je crois, oui. On était, en plus, on a tourné en juin, juillet. C'est les mois les plus chaleureux de l'année, avec plus de tempêtes de sable. Le ciel, il a pas des structures, il y a beaucoup de sable, de poussière dans l'air. Tu sens les limites. Tu sens vraiment les limites. Le désert te donne en t'enlevant. Non, il t'enlève. C'est une manière de prendre soin de toi. Moi, en plus, 5 mois avant, je venais de passer un divorce. C'est curieux, comme les films, dans l'état dans lequel tu les fais. J'étais la personne plus heureuse du monde, avec les choses tellement claires, tout, et d'un coup, bam, non, il y a la vie qui te donne une gifle, un peu comme dans le film, et du coup, ton ego, il est par terre, quoi, il est ravassé, et t'es là, t'es seul, t'es nu, t'es dans le désert, dans une espèce de désert, tu regardes le ciel, un peu impuissant, en te disant, bon, je suis un être humain imparfait, j'essaie, j'arrive pas, et je trouve que c'est là, ce qui vaut dans l'être humain, non, quand il assume son imperfection, il est face à sa fragilité, il envoie sa fragilité. Et peut-être que là, il y a un peu de transcendance aussi, non, dans cette acceptation que des fois, on est paumé, on essaye, mais on n'arrive pas. Non, et donc voilà, j'ai fait ce film dans un contexte de beaucoup d'existentialisme, de me demander, c'est les questions importantes. Et je crois que quand on se fait ces questions importantes, là, c'est le moment de la métaphysique, non, aussi, à laquelle invite le film. Bon, ben, tu t'abandonnes. C'est la seule réponse. Et, je sais pas, mais bon, allez. Let's surrender, non?
S'abandonne à la transe beaucoup, c'est l'état dans lequel vous mettez le spectateur. Je ne sais pas si là on revient encore à une philosophie, à une mystique soufie qui est celle de perdre pied peut-être. Comment est-ce qu'on la met en scène cette transe? Ça marche par des fondus enchaînés notamment, ça marche évidemment par la musique, mais la caméra elle-même ou le réalisateur derrière a l'air en transe au moment où il filme.
Pas tellement, en fait. C'est un film très technique, avec beaucoup d'effets spéciaux. C'était quand même très dur. Donc, c'est un tournage assez précis. On est un paquebot très grand et tu ne peux pas tellement improviser non plus. Bon, il y a toujours des éventualités, comme je disais avant, et heureusement, non, qui font un peu le film un peu plus croustillant, un peu plus irrégulier, un peu plus organique, plus vivant. Je pense qu'il y a un niveau de transe, tout d'abord, que c'est celle du cinéma. Et nous, on fait confiance à ça, je veux dire. On n'était pas tellement obsédés à tourner des gens qui dansent en transe. On faisait confiance que les proportions des images et comment elles sont coordonnées les unes les autres, c'est pas qu'on faisait confiance, mais on sait que là se trouve un peu le mystère du cinéma, qu'il y a des fois des équations d'images qui pénètrent le spectateur et qui l'invitent à un autre niveau de perception. Je sais pas si c'est le cas de Sirat, mais en tout cas, ce que j'entends de les spectateurs, de comment le film arrive à remuer à l'intérieur les spectateurs, comment le fait, le film le provoque, il regarde son intérieur, je trouve que oui, que peut-être, je ne sais pas si de la transe, mais je crois qu'on a fait quand même de la sorcellerie un peu. Ce n'est pas qu'un film, c'est une cérémonie cinématographique. On a compris ça à Cannes surtout, quand on identifiait les sensations des spectateurs. Que ce n'est pas qu'un film, et bon, moi, ça m'estimule beaucoup, ça. Ça fait que, bon, bien évidemment, j'ai envie que les gens aiment mon film et j'aimerais que tout le monde aime mon cinéma. Mais là, je suis dans un moment où je suis très tranquille. Même les gens qui n'aiment pas Sirat, je sais, parce que je fais confiance aux images et je fais confiance aux spectateurs, et ça peut sonner un peu paternaliste, mais je sais que les images, enfin, je suis content parce que je sais que les images l'ont un peu remoué. Même celui qui fait une projection et qui ne rentre pas dans le film, je sais que ça a eu un effet et ça, c'est important.
Ce qui peut être reproché à votre film, c'est que des personnages, on ne dira pas lesquels et comment, meurent. J'imagine que ce n'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on fait mourir un personnage qu'on a construit, développé, accompagné, aimé. Comment est-ce que ça se passe pour vous ?
Bon, mais ça se passe comme dans la vie, je veux dire. C'est comme ça, enfin, la vie n'appelle pas au téléphone en te prévenant. Ne t'identifie pas beaucoup avec ce personnage parce qu'il va décéder, enfin, Là, en fait, je comprends, hein. Et on savait, je veux dire, on est une société tellement thanatophobique, et c'est pour ça qu'on a fait ce film, qu'on fuit la mort, qu'on a une relation très enfantine avec la mort. Enfin, c'est tout à fait normal que, voilà, il y a cette identification, on estime les personnages, et du coup, qu'on sente de la tristesse, ils meurent, etc. Voilà, dans notre société, on se demande trop la question pourquoi les gens meurent. Dit d'une autre manière, on trouve que Dieu est injuste ou qu'il n'existe pas, tout simplement. Ou qu'on est de la poubelle cosmique en train de errer dans l'univers. On est un hasard de l'univers, non ? Je pense que la question n'est pas pourquoi on meurt. C'est une question qu'on ne se pose jamais dans d'autres pays, dans d'autres traditions. Tu meurs quand tu meurs et tu devais mourir quand tu devais mourir. Il n'y a pas de place à ce genre de questions. La question, c'est comment on meurt. Et c'était ça que je voulais travailler, surtout pour moi-même. J'ai quand même peur de la mort, ou dit d'une autre manière, la mort a modélé ma psychologie. Ma naissance et ma mort, non, c'est ça qui m'a modélé ma psychologie. Et voilà, et comme ils disent dans le film, apprendre à mourir de manière grandiose, ou au moins mettre l'accent sur qu'est-ce que je fais juste en mourant de mourir. Est-ce que je suis en train de danser, par exemple, qui d'ailleurs est une morte très transcendantal dans la culture rave, mourir d'overdose dans un dance floor fait que ton âme transcende, et mourir en aidant un compagnon, comme c'est aussi, bon voilà, ça arrive un peu dans le... Enfin, voilà, est-ce que l'héros est en train de défendre ses valeurs au-dessus de son ego ? Voilà le djihad, non ? Voilà la question de comment mourir.
La question que se pose un cinéaste, j'imagine, c'est aussi comment filmer cette mort. J'ai été frappé par le fait qu'il y a des morts, mais il n'y a pas de cadavres dans votre film.
Oui, en même temps, en fait, j'ai envie de secouer, ou c'est pas que j'ai envie de secouer, mais quand même, j'ai envie de montrer la mort telle qu'on l'est, crue, sobre, implacable, intelligente, parfaite, au bon moment. Mais bien évidemment, j'ai pas envie de faire du sensationnalisme, ou j'ai pas envie de me... On dit en espagnol « regodearse », ça veut dire d'être là et de... Non, c'est sobre. Et... Peut-être que ça fait que les faits soient un peu plus, même plus durs, non ? C'est tellement réel, c'est tellement comme dans la vie, il n'y a pas de... on respecte beaucoup le point de vue, on est beaucoup avec les personnages, on ne bouge pas tellement la caméra, enfin... c'est une morte implacable dans Assirat, comme toujours. Oui. Bon, bref, des fois on peut dire au revoir doucement à nos chers, non, mais... Mais en tout cas, moi, c'était une des choses que j'ai appris un peu dans ma pratique, et que je crois que Sirat évoque, c'est la notion de la crise. Vive les crises. La crise, c'est la manière qu'a la vie, dans son mécanisme parfait, de nous éveiller, de nous faire connecter avec notre partie plus essentielle. L'ego voile cette essence, et l'ego grandit, c'est comme une espèce de peau, une membrane dure, qui enveloppe cette essence. Et la crise, c'est la manière que la vie a de, bam, de traverser cette membrane, cette peau, et de nous dire, de nous parler, de nous faire les bonnes questions. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt autour de nous, c'est triste, bien évidemment. Mais il y a une saveur aussi douce, parce qu'on est en dialogue et strict et très puissant avec la vie. Non, on se pose les bonnes questions. On se questionne notre propre mort. Moi, je pense beaucoup à ces gens qui étaient dans les montagnes, cet avion qui tombe, qu'ils ont eu un dialogue si fertile avec la vie à travers cette morte, non ? Une montagne qui leur manque. Aujourd'hui, ils ont 80 ans et ça leur manque, la montagne. Ils disent que... Enfin, ils ne changeraient rien. Ils ne changent rien. Il y a leur famille qui est morte là-haut, des amis. Ils ont compris le secret de l'existence, non ?
Merci beaucoup, Oliver Lachey.
De rien.
Sirat est sorti en salle ce mercredi, tout comme Première classe, le documentaire de Katerina Gornostai sur l'école en temps de guerre en Ukraine, dont nous vous parlions la semaine dernière dans Plan Large. Tout comme Renoir, le beau film de la japonaise Chie Ayakawa, passé un peu et injustement inaperçu dans la dernière compétition canoise et dont nous parlerons avec elle la semaine prochaine. Côté festival, celui du cinéma américain de Deauville, qui se termine demain, a été marqué cette année par une présence bouleversante, celle d'un mythe, Kim Novak, qui, à peine revenue de Venise, où elle avait reçu un Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière, était venue à 92 ans sur les planches normandes présenter un très beau documentaire consacré à sa vie et à son œuvre, si étroitement mêlé. Le film s'appelle Kim Novak's Vertigo, du cinéaste suisse Alexandre O. Philippe. Le titre du film fait bien sûr référence au chef-d'œuvre pour lequel elle restera à jamais dans l'histoire du cinéma, le mythique Vertigo d'Alfred Hitchcock, où elle interprétait, faut-il le rappeler, le double rôle de Madeleine et de Judy. Le rôle de sa vie, tant il correspondait en tout point à ce que la dernière star créée par un studio de l'âge classique, en l'occurrence la Columbia du nabab Harry Cohn, pour au début des années 50 concurrencer Marilyn Monroe et remplacer une Rita Hayworth vieillissante, ressentait à Hollywood, elle qui était tellement réticente au star system qu'on l'a surnommée The Reluctant Goddess, la déesse réticente. Nous n'avons évidemment pas manqué l'occasion de rencontrer Kim Novak.
Madeleine, where are you now?
Here with you.
Where?
Those trees.
Have you been here before?
Yes.
When? When were you born?
Long ago.
Where? When? Tell me. Madeleine, tell me.
No.
Madeleine, tell me what it is. Where do you go?
No, I
what
can't
takes you
tell
away?
You.
When you jumped into the bay, you didn't know where you were. You gasped, but you
didn't
know.
I didn't jump. I fell. You
Why
told
did
me
you
I
jump?
Fell.
Why did you jump?
No, I can't tell you.
Why did you jump? What was there inside that told
no,
you to jump?
Please.
What? What?
Please don't ask me. Please don't ask me.
Ce qui est drôle, c'est que Harry Cohn, le patron de la Columbia, m'a dit « Ce n'est pas un bon scénario, mais c'est un formidable réalisateur. » J'étais tellement jeune, je ne savais même pas qui était Alfred Hitchcock. Tout d'un coup, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, Oh mon Dieu, c'est moi, aussi bien Judy que Madeleine. Elles étaient toutes les deux tellement réelles pour moi, car toutes les deux devaient être quelque chose qu'elles n'étaient pas. Et j'aimais vraiment le défi de pouvoir finalement jouer quelque chose qui représentait ce que je ressentais et ce que je croyais. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas si Alfred Hitchcock l'a fait exprès ou pas, c'est que les costumes, les robes que je portais n'étaient pas confortables. Je sentais que ce n'était pas moi. Et c'était le meilleur outil dont je pouvais me servir pour ressentir cet inconfort de porter ces vêtements qui ne semblaient pas justes. Ça m'a toujours mis dans cet état de ne pas vraiment savoir qui j'étais, puisque j'avais toutes ces choses différentes que j'étais censée être. Alors ce petit inconfort, je pense, m'a aidé à jouer ce personnage qui était vraiment moi, puisque c'était le même inconfort que je ressentais à Hollywood.
Vous nous livrez un peu une méthode de travail ici, Kim Novak, parce que vous dites dans le film qui vous est consacré que vous n'êtes pas une actrice, vous êtes une réactrice. Vous ne jouez pas, vous réagissez. C'est toujours comme ça que vous avez abordé le jeu au cinéma ?
Oui, tout à fait. Parce que j'avais le sentiment que je ne pouvais pas rivaliser avec des acteurs qui étaient dans le métier depuis si longtemps et qui connaissaient tout de la technique. Je partais de zéro, de nulle part. Et de devoir soudainement me mettre à jouer, je trouvais trop compliqué de devoir devenir si rapidement quelque chose que je n'étais pas. Alors, je l'ai simplement intégré, et je me contentais de réagir. Et heureusement, j'avais de merveilleux scénarios avec de merveilleux réalisateurs. Alors, réagir était très facile à l'époque. Mais ce n'était pas toujours une bonne chose d'être réactive. Parce que si le scénario était mauvais, je trouvais ça impossible d'apprendre les dialogues, sans parler de les dire. Alors c'était très difficile. Et Dieu merci, tant de choses merveilleuses me sont arrivées. Tellement de merveilleux réalisateurs et acteurs à qui donner la réplique. Ils me donnaient tellement, comme James Stewart. Il m'a tellement donné. Il est comme moi, un réacteur. Bien sûr, il a aussi tous les autres talents. Mais j'ai tout fait à partir de mon âme, de ce que je ressens, de ce que je suis.
Il y a beaucoup de légendes autour du tournage de Vertigo, notamment que Hitchcock n'était pas content de vous avoir puisqu'il voulait avoir Vera Miles et qu'il vous aurait jeté dans la baie de San Francisco plus que nécessaire. Comment ça se passait concrètement le travail avec Hitchcock ?
C'était merveilleux, vraiment. Heureusement, je ne savais pas à l'époque qu'il voulait quelqu'un d'autre, sinon ça m'aurait mise mal à l'aise. Mais il m'a donné la liberté de réfléchir par moi-même. Au début, je me demandais pourquoi il ne me disait pas ce que je devais faire. Il me disait beaucoup de respecter les marques, tout devait être exact. Ça m'allait très bien. Mais il ne m'a jamais embrouillé la tête. Il ne m'a jamais dit comment analyser le personnage ou qui j'étais censée être comme personnage. On n'en discutait jamais. Seulement des questions techniques, sur lesquelles j'étais plus que demandeuse de son expertise. Il m'a donné plus de liberté que tous les réalisateurs avec lesquels j'ai travaillé.
Nous ne manquerons pas de vous signaler la sortie en salle du documentaire Kim Novak's Vertigo d'Alexandre O'Philippe. Il n'est pas encore daté. Merci à Pascaline Bonnet d'avoir prêté sa voix à la star et à Clarisse André et aux équipes de Hopscotch Cinéma d'avoir favorisé cette rencontre. Pour rester dans des fantômes ressurgis de l'histoire du cinéma, il est temps à présent d'invoquer un esprit facétieux, pour ne pas dire frappadingue.
Bonjour Monsieur le Baron. Avez-vous bien dormi ? Comment neige et comment vont vos reins, Bardami?
Un peu mieux, monsieur le baron.
Est-ce à cause de l'eau? Lors de son séjour à Venise, le sieur de Montaigne lui aussi souffrit de semblables tourments.
Les années nous rongent de l'intérieur.
Il a l'air bien, votre gâteau.
Oui, mais j'ai du mal à y inscrire quelque chose.
Quel genre de choses?
Oh, quelque chose de gentil, un petit mot d'amour. C'est pour la princesse Elena Komrovic. Elle est belle à en mourir. Un vrai poème.
C'est qui cette princesse?
La bien-aimée du prince Omar Rachid.
Je ne connais pas.
Un homme charmant. La preuve vivante que quand on est quelqu'un de bien, le pétrole ne vous monte pas à la tête.
Tout à fait d'accord, Vardami.
Le cuisinier, tout en rondeur et gourmandise, c'était en 1999 dans Les Noces de Dieu, le regretté critique et théoricien du cinéma Jean Doucher, le baron au visage émacié et au corps osseux, c'est le tout aussi regretté et grand cinéaste portugais João César Monteiro, dans le rôle de son personnage fétiche João de Deus, Jean de Dieu, déjà vu précédemment dans Souvenir de la Maison Jaune, Lion d'Argent à Venise en 1989, et La Comédie de Dieu, où il confectionne de délicieux sorbets et collectionner des poils pubiens. Aristocratique et libidinal, surréaliste et transgressif, le très précieux cinéma du grand rival à l'époque dans le cœur des cinéphiles de Manuel de Oliveira commençait à être un rien oublié depuis sa disparition en 2003. Un coffret Blu-ray récemment paru permet de redécouvrir 13 de ses films en version restaurée. João César Monteiro séduit et repousse, écrivait Jean Agili à son décès dans la revue Positif. Il provoque celui qui le regarde par son allure de profanateur gracile, toujours en déséquilibre entre raison et folie, Mathieu Macheret.
Oui, c'est tellement juste que je n'ai plus qu'à plier chronique, Antoine. Non, je vais quand même la faire. Alors, c'est vrai que le retour inespéré du cinéma de Monteiro nous rappelle quelque chose, car pour qui ne le saurait pas encore, le Portugal, d'après la révolution des œillets, fut une terre de cinéma enchantée, une divine exception hein, pour le cinéma. Les années 80, ça a été son âge d'or, et João César Monteiro, une exception dans l'exception, une originalité au carré. Depuis environ deux décennies, son dernier long métrage Va-et-vient, qui était sorti en 2002, il a été présenté posthume au Festival de Cannes. L'œuvre de Monteiro, elle s'était lentement retirée, peu montrée, peu célébrée, et on ne tombait plus forcément sur elle en zappant sur Arte, comme ça a pu être le cas à une époque, je m'en rappelle. L'intégrale qui est éditée par Spectrum Film dans un beau coffret la ramène à notre attention. Et surtout dans des copies restaurées qui permettent vraiment de redécouvrir les films dans des bonnes conditions. C'est un monde, des trésors de citations, des lucubrations, des moments musicaux, des vertiges de contemplation, tout un territoire de gestes rituels et bouffons que contient cette œuvre, somme toute parcimonieuse, 9 courts et 12 longs-métrages en 20 ans d'activité, c'est-à-dire entre 1972 et 1995. Chose étonnante pour un cinéaste qui n'a jamais tourné qu'au Portugal, et le plus souvent dans un périmètre assez restreint de Lisbonne, le fait de contenir un monde et comme ça, assez étonnant. Monteiro, c'est un spécimen de réalisateur-acteur. Plus qu'une signature, c'était un personnage au sens fort, apparu en cours de filmographie à l'intérieur de ses films, comme pour les habiter ou les dérégler de l'intérieur. Esthète dandy, aristocrate déchu, promenant sa silhouette de grand escogriffe comme un trait tiré à l'intérieur du plan, philosophe bouffon, satire grêle et chenu, puits de culture mal embouchée et toujours enclin à déguster une grossièreté. Monteiro, il a représenté ce paroxysme d'un certain cinéma d'auteur lettré et citationnel de la fin du XXe siècle, d'une lignée qui lirait presque les épigrammes obscènes de l'Antiquité romaine aux fastes ornementaux du romantisme européen. À défaut de pouvoir parler de tous ces films en 5 minutes, on n'a pas assez de temps, on va en retenir 3, voilà, qui ont été picorés au gré du coffret. Tout d'abord, vous en avez parlé un peu, Antoine, Souvenir de la Maison Jaune, film de 1989, qui a été le film de la consécration pour Monteiro, le premier où il passe devant la caméra et qui ouvre une trilogie. Il y aura La Comédie de Dieu et Les Noces de Dieu par la suite. Le film est sous-titré Une comédie lusitanienne pour donner le ton. L'attaque est d'emblée stupéfiante puisque c'est un travelling sur Lisbonne depuis un bateau qui quitte le port. Et pendant cette vue mobile, on a la voix off du héros, de Monteiro, qui décline ses petites misères de vieillard, en l'occurrence les punaises qui sont nichées dans son matelas et qui lui sucent le sang toutes les nuits. Cette voix
angoisse encore, elle restera tout au long de l'œuvre l'un des motifs privilégiés du cinéaste, qui n'aime rien mieux que jongler entre le in et le off, la parole et l'écoute, le dit et le tu, et qui aime aussi investir les charmes et les prestiges de la langue portugaise, agrémentée à l'occasion d'idiomes voisins. Elle est dans son cinéma une préfiguration de la musique qui prend parfois le relais. Jean de Dieu, c'est un malheureux pensionnaire dans une mansarde qui est opposée à sa logeuse acariâtre, un vieillard libidineux, il court après la jeune fille de la maison, une jeune policière qui joue, attention, de la clarinette. Et ici se cristallise la mise en scène selon Montero, une économie du plan comme bloc d'espace-temps où vient s'inscrire la cérémonie gestuelle et langagière de son personnage. Voilà. Et après une dérive qui le mène jusqu'à l'hôpital psychiatrique, Jean de Dieu hante les recoins de la ville. Le dernier plan le montre sortant des égouts, telle une créature fantastique qui fait beaucoup penser au Nosferatu de Murnau. On prend un autre film, À fleur de mer, 1986, moins connu, antérieur de 3 ans. C'est aussi l'un des plus beaux de l'œuvre montérienne. Autre résurgence de Nosferatu, le film s'ouvre sur un bateau vide qui vogue seul sur une mer azur dans les premières images du film. 3 sœurs passent leurs vacances dans une grande maison de la côte portugaise, dont Laura Morante, qui est une traductrice italienne. Et à la radio, on entend l'assassinat d'Issam Sartaoui, qui est un leader palestinien abattu au Portugal en 1983. Et un Anglais débarque dans le jeu au milieu de ces 3 femmes. L'arrivée de l'homme soulève une vague de mystère, d'expectative, de désir, d'affect. Le film est l'observation de ce qui se trame souterrainement entre les personnages, mais surtout une grande étude sur les visages, les nuances de bleu, de la mer et du ciel. Alors, on remonte encore un tout petit peu de quelques années, en 1981, on traverse la filmographie à rebours, et là, il y a Sylvestre, mystère médiéval inspiré des contes traditionnels portugais, avec Inès de Medeiros qui joue une sorte de Jeanne d'Arc portugaise qui prend les armes suite à la disparition de son père. Avec un travail de plateau fondé sur les artifices visibles, des fonds de décor fixes, des filtres de couleurs, Montero fait vivre à l'écran l'hypothèse d'un cinéma de tréteaux, exactement comme Manuel de Oliveira avec Le soulier de sa quelques années plus tard. Montero, il trouve là une sorte d'éthique du cinéma, c'est-à-dire une façon de tout recommencer le cinéma par le théâtre. C'est une forme de paradoxe chez lui et en même temps sa plus grande valeur, puisque le plus grand dépouillement est ici synonyme de la plus grande sophistication.
Mathieu Macheret, le coffret João César Monteiro, c'est à se procurer tout à fait cessante chez Spectrum Film. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Élise Leu. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.